En ce qui concerne les crimes de sang, côté de l'Afrique, elles sont plus fréquentes du côté du nord de l'Afrique, c'est-à-dire dans des pays tels que l'Égypte, la Libye ou la Tunisie, où la religion musulmane est dominante. On n'observe pas encore ce genre de dérive au sein des autres communautés religieuses, telles que la communauté de foi chrétienne.
Revenons sur le Pakistan. Hein. Le Pakistan a révisé son code pénal en 2005 pour empêcher que les hommes tuant une femme de leur famille au nom de l'honneur n'échappent au châtiment en s'accordant à eux-mêmes le pardon en tant qu'héritier de la victime. Que pensez-vous de cela ?
Mais ceux-là qui commettent ces crimes et qui par la suite peuvent s'auto-pardonner peuvent à nouveau récidiver en commettant un nouveau crime de sang. Et ça devient une sorte de culture qui s'établit au sein d'un groupe et une culture qui peut s'exporter. C'est généralement des comportements que l'autorité étatique a du mal à réprimer. Et surtout qu'en réalité, le crime en question intervient souvent pour des questions liées à l'affect, c'est-à-dire la jalousie, la colère. C'est sûr qu'au Pakistan, vous entendrez parler de nouveaux crimes. Malgré la mise en place de mesures, il faut réagir de façon véhémente pour pouvoir impressionner la conscience collective et surtout la conscience de ceux qui ont tendance à vouloir développer des comportements criminels face à des dérives sociales ou religieuses.
Le gouvernement pakistanais lutte d'une certaine manière justement pour punir ce type de criminels, mais l'on constate effectivement que ça continue comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme le Pakistan peut arriver dans les quelques années à venir à totalement éradiquer ce type de crime ?
Comme dans d'autres États majoritairement musulmans, en matière de comportement religieux, ce n'est pas l'État qui fixe la norme, et encore moins qui peut mettre en place des mesures qui soient respectées par l'ensemble des croyants ou par l'ensemble des citoyens de l'État en question. Surtout que vous savez que dans un pays comme le Pakistan, les sectes religieuses sont aussi puissantes que l'État, donc il est difficile que l'État puisse prendre des mesures qui vont être respectées par tous. Je pense que si et ces mesures étaient relayées par les chefs religieux ayant une audience nationale ou internationale. Oui, on peut espérer que de tels crimes puissent être éradiqués. Mais connaissant le Pakistan, le contexte actuel, il est difficile que l'État tout seul puisse, avec autorité, prendre des mesures qui vont être respectées.
Toujours pour le Pakistan, vous savez que la loi, en fait, laisse au juge la possibilité de ne pas imposer de peine de prison lorsque d'autres proches de la victime accordent leur pardon aux meurtriers. En tant que sociologue, quel regard portez-vous sur cette sorte de pardon accordé à un meurtrier ?
Le pardon accordé à ce genre de meurtrier ne peut pas aboutir à l'éradication du phénomène criminel en soi. Mais je pense que on arrivera forcément au retrait de la capacité d'absoudre le criminel par le pardon de la famille, si et seulement si l'État prend lui-même la responsabilité de saisir et de condamner le criminel. Et je pense qu'on arrivera justement à une sorte de consensus social qui pourrait, à mon avis, donner lieu à une maîtrise des dérives sectaires en matière de comportement religieux au niveau de pays tels que le Pakistan. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le Pakistan n'a pas à lui tout seul le monopole de tels crimes. Alors, si dans l'Asie du Sud-Est, vous trouvez le Pakistan, ben, je peux vous assurer qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, vous trouverez les mêmes crimes traités de la même manière avec autant de laxisme par des États tels que l'Égypte. Parce que, vous savez, le crime de sang est fortement lié au code moral de chaque nation. Et chaque nation interprète le code moral de l'islam en fonction de sa vision des choses et met en place un dispositif, une batterie de mesures permettant d'encadrer ou de contrôler les comportements sociaux ou moraux en vue d'éviter des dérives. Alors voilà, ce sont des codes moraux qui permettent de pavoiser justement le chemin qui mène au crime de sang. Parce que si on réprime autant, avec autant de violence, les dérives morales, il va de soi que pour traiter sans dérives, il faut d'abord et surtout prendre des mesures concernant le code moral servant à légitimer les crimes de sang qu'on commet. C'est le code moral qui doit être remis en cause, qui doit être revu, reformé et adapté au contexte social actuel. Et tant qu'on va rester avec un code moral qui n'est pas en adéquation avec le contexte moderne actuel et qui, par contre, permet la résurgence des comportements primitifs tels qu'on les observait au 15e, 16e siècle dans le contexte islamique de l'époque, je peux vous assurer que les crimes de sang ont encore devant eux de longs et beaux jours. Et puisque dans ce pays, l'autorité religieuse se confond avec l'autorité gouvernementale, alors c'est à l'État de se prononcer sur la question soutenu en cela par les chefs religieux.